RCF.
Je sais pas, c'est trop bien quand tu te dis « ça y est, c'est ma vie ».
On casse la routine. Glace au chocolat.
Voilà.
C'est essentiel pour mon équilibre.
Avec chantilly.
Et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans notre espace culture et détente de fin d'après-midi où, je vous le rappelle, l'accès est toujours libre. Alors à l'affiche aujourd'hui, leur mettre le nez dehors. C'est valable pour les enfants et aussi pour vos plantes d'intérieur. Mais à quelles conditions? Les conseils tout à l'heure de Pascal Aspe dans le rendez-vous jardinage du jeudi. Et puis le Festival de Cannes suit son rythme de croisette. Parmi les stars, Valérie de Marnac qui nous donnera ses coups de cœur pour cette nouvelle édition. Elle a fait un peu de cinéma, mais c'est surtout la musique où elle s'est pleinement épanouie. Un univers solaire et aussi engagé qu'on va pouvoir découvrir à l'occasion de son nouvel album. Bonjour Christina Romini.
Bonjour.
Merci d'avoir atterri dans nos studios. D'autant, je crois que vous revenez tout juste de Montréal.
Tout à fait, oui. Je suis encore en plein jet lag.
Mais ça va bien se passer. Alors Christina Romini, l'artiste qui coche toutes les cases, chanteuse, comédienne, danseuse, musicienne et auteure. La peinture ou la sculpture, est-ce que vous avez essayé, Christina?
Non, mais je fais très bien la tortilla.
La tortilla, c'est déjà pas mal. En tout cas, depuis l'enfance, vous n'avez pas arrêté en matière de spectacle ou d'album en lien avec vos origines méditerranéennes, mais pas seulement. Témoin Inti, votre nouvel opus qui est sorti tout récemment, 14 titres avec plein de sujets qui vous touchent et nous concernent aussi. On va le découvrir ensemble. Tout doux, plein soleil avec Christina Romini. C'est parti.
Tout doux avec Vincent Belletti.
J'aimerais ton avis, des vies, vu qu'on m'a pas remis, des vies, les clés de l'existence. Mais voilà, ça m'a pris, des vies, ma foi j'ai bien envie, des vies, à cette loterie, des vies, d'enfin tenter ma chance. On n'a pas tout compris, des vies, à la lila des apparences.
Voilà, Davy, l'une des chansons de ce nouvel album pour nous donner un petit peu l'ambiance dans l'esprit, la tonalité musicale. Davy, c'est quoi en fait l'inspiration? Quel est le message derrière, si on peut dire, Christina Rosmini? Parce que j'ai oublié de prononcer
et oui,
le S. Et oui,
c'est vrai que dans les
le sud,
du sud, on dit
on
toutes
prononce
les
toutes les lettres. Et si, exacto,
oui,
exacto.
Oui.
Alors le message de Davy, c'est quoi?
Oh, bah Davy, déjà, c'est la déesse mère en Inde. Et là, je me suis amusée. Bon, sur scène, je raconte une petite histoire assez drôle, comme quoi je m'adresse à Dieu et à la fin, c'est Ève qui parle à Dieu et qui lui dit « Est-ce que tu peux me faire un homme ?» Et à la fin, Dieu lui dit « Je peux te faire confiance ?» Et Ève dit « Mais je te promets !» Et Dieu lui répond « Écoute, vraiment, est-ce que je peux te faire confiance ?» Et Ève lui dit « Écoute, entre femmes. » Donc Dieu, voilà, ouais. Dieu étant une femme. Et là, j'ai mis le, voilà, j'ai fait un petit clin d'œil. Et à cette mère divine là, je lui demande surtout de m'apprendre à vivre, voilà, de m'apprendre. Comment danser la danse de la vie avant de m'envoler? Alors je le dis sur un ton léger, mais le propos ne l'est pas.
Le propos ne l'est pas. Pourquoi avoir intitulé votre album Inti? Alors je prononce bien cette fois-ci Inti. Quelle est la signification de ce mot?
Inti, c'est le dieu du soleil. C'est le dieu du soleil chez les peuples des Andes, chez les Incas. Et au départ, l'album devait s'appeler Louve. Parce que c'est un des titres justement,
on entend
de l'album
tout à l'heure, oui.
Voilà, et c'était important pour moi puisqu'il parle de la création, de ce principe créatif qu'on porte tous en nous. Et puis plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que la louve portait une énergie lunaire, une énergie de nuit, de soie, alors que mon travail, ma personnalité, mes spectacles, c'est plutôt solaire. Donc je me suis dit, bon, voilà, après avoir flirté avec la lune, je vais quand même rendre hommage à celui qui m'éclaire.
Voilà, le soleil qui a rendez-vous avec la lune, comme aurait dit Charles Trenet. Alors on va revenir sur cet album, mais avant, un retour sur votre parcours. Et là, je dois dire qu'on n'est pas déçu hein, quand on voit la multiplicité de vos activités artistiques. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de monde dans cette émission, mais moi, j'étais complètement catastrophée. Comment est-ce qu'on va résumer tout ça en 10 minutes? Alors, ça commence d'abord à Marseille. Hein, où vous êtes née, Christina, des origines espagnoles, corses et italiennes. Ça donne quoi comme caractère?
Ben, ça donne pas quelqu'un d'endormi, en tout cas.
Ben ça, j'imagine.
Voilà, ça c'est sûr. Et, mais par contre, voilà, ça donne quelqu'un de... Enfin, je crois que je regarde toujours justement vers le soleil.
Ouais.
Et je suis forcément ouverte à la différence, puisque je suis moi-même issue d'une immigration, voilà, de tous les côtés.
Ouais.
Et que, voilà, et que je pense être un beau produit de la République, c'est-à-dire quelqu'un qui garde un lien très fort à ses origines, tout en ayant digéré la culture française, en l'ayant aimé de tout mon cœur et en essayant d'en être digne.
On en reparlera tout à l'heure, notamment avec Georges Brassens. Alors, devenir une artiste dans le milieu musical, est-ce que c'était quelque chose qui a tout de suite été une évidence pour vous, toute petite? Vous vous êtes dit, c'est la musique, c'est la scène.
Oui.
Oui.
Je viens pas du tout d'une famille d'artistes, hein. C'est vraiment, ça a été d'ailleurs assez compliqué à faire accepter aux miens. Mais moi, c'est depuis, ma maman disait que je chantais avant de parler, que je dansais avant de marcher. Mais vraiment toute petite, je me voyais sur des grandes scènes. Et je me souviens un jour, j'étais avec mon papy, j'avais 5 ans, on regardait une émission de télé, et il y avait une émission sur Piaf. Et mon papy dit, mais regarde celle-là, la vie qu'elle a eue, les voyages, l'Olympia. Et je me suis dit dans ma petite tête, je peux pas lui dire parce que ça va lui faire de la peine. Mais c'est cette vie-là que je vais avoir.
Ouais, c'est cette vie-là. Alors justement, à 5 ans, vous allez commencer comme petit rat. Alors là, je parle de danse à l'école de l'Opéra de Marseille, dirigée par Roland Petit. Vous allez ensuite vous former à l'école des studios des variétés à Paris pour notamment vous perfectionner en théâtre, technique vocale et écriture. Puis après, tout va progressivement s'enchaîner avec des participations à des spectacles, des concerts, des tournées, grâce à plein de rencontres. Alors Michel Bernard, Georges Moustaki, André Chédid, dont vous chanterez les poèmes. Ça, je crois que c'est une rencontre qui vous a marqué, André Chédid.
Ah, c'était incroyable. J'avais entendu parler de ses poèmes par un compositeur chilien qui travaillait avec Bernard Giraudot à l'époque. Et il m'avait dit, je crois vraiment que la poésie d'André Chédid, moi je ne connaissais d'elle que L'Enfant Multiple, j'avais lu Et l'autre, qui était des romans, mais je ne connaissais pas sa poésie. Et c'était le jour de mon anniversaire, c'est le jour de mes 25 ans. Et ce jour-là, j'enregistrais dans un studio qui s'appelait le studio de Seine, rue de Seine. Et là, je passe devant une petite librairie. Je m'arrête, mais je ne rentre pas. Quelques heures plus tard, je reviens. La libraire me dit, je savais que vous alliez revenir. Je lui dis, est-ce que par hasard, il y aurait des livres d'André Chédid chez vous? Elle me dit, vous plaisantez. Tout le pan de gauche, ce n'était que des livres d'André Chédid. Et la voilà, elle passe un petit coup de fil. La porte du fond de la librairie s'ouvre. André Chédid apparaît. Et là, c'était un cadeau incroyable. Et donc, André Chédid m'a offert tous ses livres. Et on a lié une amitié très forte.
Ouais.
Oui.
Alors, vous allez aussi faire de la comédie musicale avec Les années Zazou de Roger Louret, du théâtre notamment avec Jean Marais, Bernadette Lafont dans L'Arlésienne, être Carmen dans Carmen la Nouvelle de Jean-Luc Revol et Jean-Luc Paliès, faire un peu de cinéma aussi dans le film Marche et rêve de Paul Carpita, collaborer avec Vladimir Cosma pour une chanson. Enfin, je l'ai dit, il faudrait des heures pour décliner le CV artistique de Christina Rosmini. Mais vous n'oubliez pas aussi de créer, de chanter pour vous-même, notamment dans Sous l'Oranger. C'est votre premier album, il sort en 2009. Il est issu d'un spectacle musical quelques années plus tôt. Écoutez.
Moi j'aurais cédé à la flamme qui danse au ciel de Bordeaux. Cet appel au fond de ma gorge, étouffé par tes yeux de loup, battait en moi comme une forge, écho du galant d'amour. Et toujours il me disait viens, et toujours il ne criait pas. Moi je lui disais non, et je hurlais ton nom.
Voilà, Sous l'Oranger, avec toute votre énergie du Sud. Qu'est-ce que ce premier album avait de particulier pour vous, Christina?
On va dire que c'était la première fois. Là, j'entends ces extraits, puisque ce sont des extraits de spectacles. J'ai l'impression que je plonge dans une vie antérieure. Mais
c'est pas si vieux que ça, quand même. Oui.
Ouais, mais en tout cas, c'était la première fois que j'allais au bout d'un rêve précisément singulier. C'est-à-dire que je faisais confiance à mon âme en disant je vais suivre cette petite voix intérieure et je vais créer quelque chose qui, même si ça rentre pas dans les clous, hein, puisque ce que je fais, c'est vraiment très atypique, ce mélange de chansons françaises et de musique du monde à nette tendance hispanique, mais voilà, c'était impérieux, ça, voilà, donc je l'ai fait à l'époque avec un peu moins de légitimité qu'aujourd'hui. Je me sentais, j'avais besoin de caution masculine notamment, hein, de dire à mes musiciens, est-ce que, mais en réalité quand même c'était moi qui décidais de tout puisque c'était mon rêve. Ouais. Aujourd'hui, je le fais avec en me disant simplement que c'est mon chemin.
Alors justement, comédie musicale, théâtre, cinéma, création musicale, flamenco, mais aussi rythme sud-américain, également chanson française, on en parlera tout à l'heure. C'est vrai qu'on ne sait pas dans quelle case vous rangez. Est-ce qu'il y a une unité dans tout ça, un moteur, un point commun? Moi j'ai envie de dire, il y a deux mots, il y a femme et Méditerranée.
Bon, ça me va très bien, vous savez. Alors, en plus, être enfermé dans un tiroir, ça ne me plaît pas, quel qu'il soit. Je trouve que on a un peu trop tendance, justement en France, de vouloir que les gens soient ceci ou cela. Enfin, je veux dire, personne n'est monochrome. On a tous mille et un goûts, mille et un petit talent. Tout le monde. Donc, voilà, moi, je suis attirée par de nombreuses choses. Ce sont toutes ces couches successives d'histoires, de rencontres qui font la personne que je suis. Je n'arrive pas à me priver d'une d'entre elles. Ouais. Voilà.
Des créations qui sont aussi marquées sous l'angle de la spiritualité, puisqu'en 2002, vous avez écrit Al-Andalus, alors je ne sais pas si je prononce bien, Le Jardin des Lumières.
Très bien.
Une pièce de théâtre historique autour de l'Espagne des trois religions du livre, à savoir le judaïsme, le christianisme et également la religion musulmane. En quoi cet aspect spirituel a été aussi important pour vous dans votre construction ?
Alors à l'époque où j'écris à l'Andalous, je suis plutôt amoureuse de l'Andalousie médiévale. Mmh. Je suis plutôt inspirée depuis de très nombreuses années par cette poésie-là et puis par ce syncrétisme-là qui est né sous un islam de tolérance et relative en tout cas pour l'époque. Hein. Mmh. C'est vrai qu'il y avait juifs, chrétiens, musulmans, il y avait des médecins juifs à la cour des sultans, cohabitaient. Voilà. Mmh. Donc ça, c'était ça. La foi m'est tombée dessus de manière totalement inattendue. Je viens d'une famille, comme dit Brassens, d'anticléritaux, co-fanatiques, gros mangeurs d'ecclésiastiques. Oui. Et moi, depuis toute petite, j'ai des prémonitions, j'ai des signes d'une force incroyable. Je me sens accompagnée, je me sens portée. Mmh. Et donc, oui, j'ai une foi très profonde, qui n'est pas forcément reliée à une religion. Mais par contre, il y a quelque chose, une force, une puissance. Indéniable. Mmh. Oui. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai répondu.
Voilà pour cet aspect spirituel qui est aussi très important dans votre démarche artistique. Alors aujourd'hui, votre actualité, c'est la sortie de Inti, donc votre troisième album. On va le découvrir. Ça sera juste après une première page musicale que vous avez choisie pour nous. Et en l'occurrence, eh bien, c'est Cœur Volcan de Julien Clerc. Pourquoi lui et ce titre, Christina ?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que précisément dans cette chanson, il y a ce mélange de textes extraordinaires d'Étienne Rodagil et
C'était une grande rencontre pour vous aussi, Étienne Rodagil.
Exactement. Mmh. Voilà, j'allais y venir. Et puis de musique, effectivement, du Sud, puisque là, c'est un tango argentin. Il y a Piazzolla, quand même, qui a joué sur ce titre. Hein. C'est pas rien, hein, Sol Piazzolla. Donc, pour moi, voilà un des exemples qui a pu inspirer ma créativité. Et Rodagil, c'était, avec Brassens, une des plumes qui, pour moi, m'a comment dire, c'est un de mes exemples parce qu'il a rendu la poésie accessible au plus grand nombre, parce qu'il a élevé, il a élevé les auditeurs.
On écoute Cœur de Volcan et on se retrouve tout de suite après pour faire la rencontre avec une certaine louve.
Comme un volcan devenu vieux, mon cœur bat lentement la chamade. La lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades. Je pense si souvent à toi que ma raison en chavire, comme feraient des barques bleues et même les plus grands navires. J'ai la raison à raisonner dans un port désert, dérisoire toute ma vie s'est arrêtée comme s'arrêterait l'histoire. J'ai la raison à raisonner dans un port désert, dérisoire toute ma vie s'est arrêtée comme s'arrêterait l'histoire. Comme une légende qui s'éteint, comme un grand peuple en décadence, comme une chanson qui se meurt, comme la fin de l'espérance. Mon cœur volcan devenu vieux bat lentement la chamade. La lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades. Comme une armée de vaincus, l'ensemble sombre de mes gestes fait un vaisseau du temps perdu dans la mer morte qui me reste. Mon cœur volcan devenu vieux chamade, la lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades.
Cœur volcan de Julien Clerc, le choix volcanique de Christina Rosmini, elle-même volcanique, chanteuse, comédienne, danseuse, musicienne, qui sort son troisième album, ça s'appelle Inti, avec notamment ce titre.
C'était-elle dans l'enfance, dans tous tes éclats de joie, qui t'entraînait dans ses transes, au jardin de l'insouciance, et qui soufflait dans tes ailes quand tu dansais sur les toits, te faisait toucher le ciel, la louve qui chante en toi.
Alors la louve sur ce clip à l'atmosphère un petit peu onirique, on voit une femme, en l'occurrence vous, danser en contrepoint d'une autre femme, toujours vous, nue sur des branchages comme en forme d'animal. Qui est donc cette louve, Christina ?
Eh bien justement, elle est cette force que nous avons tous en nous, que nous portons tous en nous, hommes ou femmes, hein, parce que c'est pas forcément, il y a des gens qui me disent c'est une chanson féministe, non, c'est une chanson qui fait appel à notre rêve, à notre puissance, que parfois on oublie et oui. qui peut nous dévorer. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce qui fait danser les enfants, c'est ce qui les fait jouer, c'est ce qui les fait être aussi spontanés. Et si jamais on l'oublie, ben il y a danger.
Il y a danger. Alors, oui. Il y a 14 titres dans ce nouvel album avec des thèmes qui sont très divers, qui évoquent par exemple un premier amour, hein, comme le kid, une rupture, mais aussi le temps qui passe. Et c'était pas forcément mieux avant, démonstration.
Avant, c'était le bon temps, avant. C'était quand didi krtkta, didi krtkta. À l'époque où ton grand-père trimait dans les champs, quand on labourait la terre de l'aurore au couchant, qu'on gelait dans les chaumières sans chaudière, sans lumière, et se lavait à la rivière, quel que soit le temps. Didi krtkta, krtkta, didi krtkta. Didi krtkta, krtkta, didi krtkta. Krtkna, krtkta, krtkna.
Voilà, extrait du Conacole du bon vieux temps. Alors c'est vrai que le rythme est quand même un peu particulier. Expliquez-nous d'où ça vient ce rythme. Là,
en fait, en Inde, que ce soit dans le sud ou dans le nord, dans le sud, ce sont les Conacoles, il y a comme ça toute une tradition de duel percussion-voix. Donc il y a les tablistes d'un côté, les chanteurs de l'autre, et ils se répondent. Ils s'envoient comme ça des petites joutes, hein, et ça m'a plu. Ça m'a inspiré et j'avais entendu ce conacole qui faisait ta na 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 di di ka ta 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 da et je me suis dit ce na 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 on va en faire un na 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 avec le doigt qui dit non 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 et à quoi je dis non et bien au passéisme résolument parce que vraiment pour moi c'est pas possible de dire avant c'était mieux à toutes les époques il y a eu des gens qui ont dit que c'était mieux à toutes on trouve ça au 16e siècle on trouve ça au Moyen Âge des gens qui disaient qui
sont
non voilà nostalgique du passé en fait la plupart des gens sont nostalgiques de leur propre enfance ou éventuellement du mythe de l'enfance de leurs parents. Mais personnellement, voyez, quand je vois la vie de mes grands-mères, quand je regarde un peu en arrière, je suis très heureuse d'être née à mon époque. J'espère simplement que ça va pas se détériorer.
C'est justement. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus graves et engagés que vous évoquez dans cet album, comme par exemple la survie des Indiens avec la déforestation en Amazonie, et aussi le dérèglement climatique avec l'air que l'on respire, ou encore le sort des migrants qui sont morts en Méditerranée.
J'ai pris le large sous la lune, mis la grand voile au vent d'espoir. Me voilà couronnée d'écume, glacée dans le bleu du miroir. Et je crois qu'il y aura plus de vagues salées dans ton cœur esselé, qu'il n'y en a sous mes pieds jusqu'au fond de la Méditerranée. Et je crois qu'il y aura.
Voilà, extrait de Sous nos pieds, une très belle chanson qui a un sujet particulièrement grave, ces migrants qui sont donc morts en Méditerranée. En quoi ce thème vous a vraiment touché, Christina ? Comment elle est née, cette chanson ?
Oh, alors ça, c'est une histoire étonnante. J'étais sur un bateau. je revenais de Corse. Et j'apprends que la femme d'un de mes amis, madrilène, qui est un grand guitariste madrilène, s'est noyée. Et je regarde la Méditerranée et d'un coup, je vois remonter à la surface ces milliers de morts. Ces milliers de morts qui jonchent notre mer dans l'indifférence générale, il faut quand même bien le dire. Et là, je vois deux choses, si vous voulez. Je vois à la fois mes grands-parents qui ont traversé. Alors, ils n'ont pas traversé par la mer, ils ont traversé les frontières par la terre. Hein. L'Italie, encore que, puisqu'il y en a qui étaient en Corse. Hein. Et donc, je vois cette immigration-là de gens qui venaient manger, hein, qui venaient chercher simplement une vie meilleure. Donc, je me dis, c'est les mêmes, c'est pareil. Sauf que ceux-là sont noirs, donc on s'y intéresse moins. Et puis, j'entends aussi, je lis aussi sur le site de France Inter, un article qui dit qu'en 2018, lors du pire naufrage vécu par le bateau d'SOS Méditerranée, qui s'appelait alors l'Aquarius, sur 22 corps récupérés par l'équipage, 21 étaient des femmes. Mmh. Et je me dis, on ne parle jamais des femmes.
C'est vrai qu'on dit les migrants
en général. On dit les migrants, ouais. Voilà. Et c'est une entité, en plus, sans âme, sans histoire. Et moi, je me suis dit, voilà, je vais me mettre à la place de la personne qui attend sur le quai le retour de cette femme-là. Et c'est triste parce que quelques temps plus tard, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un naufrage, mais dans la Manche, cette fois-ci. Et il y a eu une jeune fiancée qui allait faire la surprise à son amoureux qui était en Angleterre et qui a coulé et qui est morte. Et je me suis dit, ça pourrait être ma fiancée à moi, cette histoire. Voilà.
Ouais, une très très belle chanson que je vous invite vraiment à écouter en entier, hein, qui est chantée d'ailleurs en duo au départ. Alors, on peut peut-être citer qui vous accompagne dans ce duo.
Alors au début de cette chanson et au milieu, il y a un extrait de La Légende des siècles de Victor Hugo. Mmh. Et je voulais une voix forte et je voulais quelque chose une voix qui représente précisément cet exil et l'Afrique. Et j'ai demandé au grand pianiste, un immense artiste qui s'appelle Ray Lema, d'origine congolaise, et qui a accepté avec toute l'émotion qu'il y a dans sa voix, toute cette chaleur toute cette histoire qu'il porte, d'être la voix de Victor Hugo.
Voilà, vraiment cette chanson à découvrir dans cet album Inti Piotti. D'autres facettes de votre univers musical qu'on va redécouvrir ensemble. Mais le jeudi, Christina, on descend aussi au jardin. C'est avec Pascal Aspe, il est responsable des jardins au Centre écologique Terre Vivante en Isère. Et aujourd'hui, vous allez l'entendre, l'heure de la sortie a sonné.
Dites-moi, est-ce que mon jardin vous impressionne ?
Splendid !
Je crois que ce que je préfère, c'est cet endroit tout seul.
Tout doux, tout ce jardin.
Et bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va mettre le nez dehors, ou plus précisément, commencer à sortir nos plantes d'intérieur qui ont passé l'hiver bien au chaud. Alors, ça peut concerner quel type de plantes précisément ?
On va dire que ça va concerner absolument toutes les plantes d'intérieur, les monstéras, les fougères, les bégonias, les yuccas, un peu tout ce que vous avez dedans, qui dans la maison traînent dans des conditions un peu différentes, certaines plus à la lumière, d'autres plus à l'humidité. Eh bien, tout ce petit monde, on va venir le mettre dehors maintenant, dès qu'il va commencer à faire un peu plus chaud.
Alors, quel avantage à les mettre dehors, alors qu'on pourrait se dire finalement à l'intérieur, elles sont pas si mal aussi. Quels sont les bénéfices ?
Alors déjà, les bénéfices, il y en a plein. On va dire que déjà, vos plantes d'intérieur, c'est très souvent des plantes tropicales qui ont l'habitude de vivre dehors. Donc, on va dire que l'intérieur, c'est pas vraiment leur milieu de prédilection. Donc, de les mettre dehors, généralement, ça va faire quoi? Ça va les exposer un peu, voyez, au vent, à la pluie, etc. Et ce qui va faire, ça va les dépoussiérer, ça va faire que leurs tiges vont un peu se rigidifier parce qu'elles vont prendre un peu le vent alors qu'à l'intérieur, elles le prennent jamais. Il y en a d'autres, au contraire, ça va être favorisé par cette humidité un peu plus abondante des fois de l'extérieur ou un peu plus de luminosité, donc mieux poussée. Mmh. Et puis surtout, phénomène particulièrement intéressant, il va y avoir quelque chose qu'il n'y a pas à l'intérieur de la maison, c'est des vraies alternances de température entre le jour et la nuit. Et des fois, pour certaines plantes, et notamment les orchidées, c'est intéressant pour les faire fleurir d'avoir une alternance entre le jour et la nuit au niveau des températures.
Alors on l'a entendu, pas mal d'avantages à ressortir tout le monde. J'imagine quand même qu'il y a des précautions à prendre, lesquelles en particulier lorsqu'on remet ces plantes à l'extérieur ?
Alors s'assurer qu'il va faire chaud. C'est-à-dire que vos plantes à l'intérieur, elles sont allées entre 18 et 20 degrés entre le jour et la nuit. Donc c'est important d'attendre que dehors, il fasse au moins 15 degrés la nuit, parce que s'il fait pas 15 degrés la nuit, qu'il fait encore 7, 8 degrés la nuit, forcément, ça va être délicat. Donc généralement, on attend le mois de juin, voire mi-juin, ça dépend un peu des climats, mais voilà. Un, qu'il fasse pas trop froid. Deux, on va pas oublier que dedans, elles étaient dans une situation où il n'y avait pas bien souvent de soleil direct. Donc on évite de les mettre directement sur la terrasse plein sud bien ensoleillée. Sinon quoi, il y aura des brûlures sur les feuilles. Les feuilles vont brûler parce qu'elles ne sont pas habituées à avoir le soleil.
Alors ça, c'était les précautions à prendre. Hein. On a bien noté que des fois, l'extérieur, c'est pas toujours ce qui convient le mieux, sans précaution justement. Côté arrosage aussi, quel conseil donner, Pascal ? Parce qu'à l'intérieur, on pouvait doser, on pouvait surveiller la quantité d'eau que les plantes prenaient, mais à l'extérieur, les conditions sont plus les mêmes.
Ben oui, à l'extérieur, les conditions sont plus les mêmes. Donc, on va prendre nos petites plantes. Là, on va les mettre au début un peu à l'ombre ou à la mi-ombre d'un arbre ou d'une pergola, quitte après à les déplacer un petit peu si elles aiment le soleil. Mais surtout, on va pas oublier quoi, que quand on est dehors, eh bien, il pleut. Et que quand il pleut, eh ben, très souvent dans les plantes d'intérieur, vous savez, on a une sous-coupe. Ce coupe qui évite que l'eau d'arrosage vienne sur le meuble ou sur le parquet. Mais à l'extérieur, vous ne maîtrisez pas la pluie, il pleut. Et si, du coup, vous oubliez d'enlever les sous-coupes risquent de se remplir d'eau avec la pluie et la plante va rester dans cette espèce de marécage qui risque de faire pourrir les racines. Donc quand on les met dehors, on enlève les sous-coupes et de toute façon, si on arrose trop, c'est pas bien grave, elles sont dehors, ça ne mesurera que l'herbe ou la terre sur laquelle elles sont posées.
Eh bien, merci encore une fois Pascal pour ce bon arrosage de conseils. Et comme les plantes, eh bien, on vous donne votre bon de sortie, mais on se retrouvera quand même la semaine prochaine. À bientôt Pascal.
À bientôt.
Une jolie plante est une source de joie pour la vue, mes enfants. Il y faudrait peut-être un rien de lumière en plus.
Tout doux avec Vincent Bellotti.
Christina Rosmini, vous avez la main verte. Vous avez un jardin ou pas?
Écoutez, mes plantes survivent. Maintenant, je suis une citadine. Et puis, je suis surtout une nomade. Donc, c'est vrai que je suis un peu à droite, un peu à gauche. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément, j'ai pas de jardin. Non, non.
En tout cas, je crois que vous avez un rendez-vous à la fois botanique et artistique à nous donner.
Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut en parler. En tout cas, j'ai deux liens avec les jardins, avec la nature. Le premier, c'est celui des jardins partagés, parce que je pense que c'est très important aujourd'hui. La démarche, voilà. Donc à Marseille, il y a le jardin de Julien, dont fait partie toute ma famille. Moi, je n'y vais pas, je l'avoue. Mais en tout cas, c'est important. Et puis, il y a ce lien à la forêt plutôt d'Amazonie. Mais ça, c'est pas vraiment moi qui le cultive. Ouais. Mais simplement, il faut y faire attention. C'est le poumon de notre.
Mais je parlais de rendez-vous. On va bientôt aussi pouvoir vous voir aussi.
Ah oui ?
Oui.
Vous voulez dire au Chêne Noir ?
Oui, enfin je sais pas, je crois qu'il y a un rendez-vous où vous allez distribuer des grains en même temps que votre album.
Ah oui, absolument. Ah, c'est pas à
vous.
Oh là là, alors d'accord.
Le lancement pour vous pousser.
Oh là là,
hein.
Oh là là.
On avait
là
pourtant
là
répété un peu avant.
Oh là là là. Non, en fait, samedi, je fais une signature à Paris de mon album.
Voilà.
Et je fais ça chez Guayapi. Mais oui, chez Guayapi. Guayapi, c'est une enseigne qui s'occupe des Indiens Sateremawe. Mmh. Et les Indiens Sateremawe, donc, c'est donc une tribu très difficilement accessible. Il faut 10 heures de bateau à partir de l'Amazon pour aller les retrouver. Et ils cultivent le Warana. Ils disent Warana, non pas Guarana. Mmh. Et donc, il y aura au showroom de Guayapi samedi à 17h. Une signature de mon album, et pour toutes les personnes qui auront mon album, il y aura une dégustation de Warana et l'explication de qu'est-ce que c'est que ce travail et ce lien pour aider les populations autochtones. Voilà, pardon Vincent.
Voilà pour le rendez-vous. C'est pas grave, on l'a donné quand même, donc samedi.
Oui.
Christina Rosmini, artiste multifonction qui sort donc son nouvel album Inti. On va continuer d'en parler dans un instant, de même que Valérie de Marnac. Avec elle, on ira faire un petit tour sur la Croisette. À tout de suite.
Tout doux, une émission de RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Bellotti.
Et retour sur le plateau de Tout doux avec Christina Rosmini, chanteuse, danseuse, comédienne, entre autres, et qu'on est ravis d'accueillir à l'occasion de la sortie de son troisième album, Inti, 14 titres entre légèreté et gravité, avec des rythmes de musique latine, orientale, et puis aussi de la chanson française, d'ailleurs avec un certain moustachu à la guitare qui vous a beaucoup marqué, petit indice sonore.
J'ai toujours eu un faible pour les gros muscles. Ma mère les détestait, vu que mon père les employait assez fréquemment.
Tu n'es pas de celles qui meurent ou elles s'attachent. Tu frottes ta joue à toutes les moustaches. Faut se lever de bon matin pour voir un ingénu qui n'est pas venu.
Un soir de pluie, v'là qu'on gratte à ma porte. Je m'empresse d'ouvrir. Sans doute un nouveau chat. Nom de Dieu, le beau félin que l'orage m'apporte. C'était toi, c'était toi, c'était toi. Oh, 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 oh.
Voilà. Voilà, il y a de l'orage dans l'air, extrait de Thio, itinéraire d'une enfant de Brassens. C'est un spectacle que vous avez conçu en 2017. En quoi Brassens a été important dans votre vie et pas seulement musical? Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, Christina?
Brassens, bon, on l'écoutait tout le temps, c'était vraiment, du côté maternel comme paternel, c'était la référence. Il n'y avait pas un seul séjour de vacances où on partait sans l'écouter dans la voiture. Mais c'est surtout quelqu'un qui, pour moi, nous a donné le meilleur, qui nous a donné justement accès, comme je disais tout à l'heure, au beau, à la poésie, aux mots, à l'humour, à un certain esprit français aussi, à une truculence, voilà, un côté irrévérencieux aussi. Et j'ai découvert un sociologue qui s'appelle Salvador Juan, et qui a écrit un livre absolument passionnant qui s'appelle Georges Brassens, sociologie d'un génie de la poésie chantée, et où il raconte comment Brassens a été un facteur d'émancipation pour les classes populaires.
C'est-à-dire...
Et je me suis dit, eh ben, c'est-à-dire que précisément, il les a élevés au sens propre, voilà, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui les a nourris et qui leur a donné accès au meilleur et à une forme, voilà, qui les a rendus intellectuels. Moi, je sais que mon frère est agrégé de philosophie, mon père écrit aussi, voilà, on est une famille. Je sais que c'est grâce à Brassens qu'on est là. Et moi, ma carrière, c'est grâce. Alors là, ce qu'on vient d'écouter, c'est un peu bizarre pour les auditeurs, mais c'est un spectacle de théâtre où je n'ai utilisé que ces mots pour raconter précisément l'itinéraire, tout mon itinéraire de vie depuis l'arrivée de mes grands-parents. Donc voilà, pour moi, nous sommes qui nous sommes grâce à son exemple et grâce à la nourriture intellectuelle qu'il nous a donnée.
Voilà. Et on sait aussi que vous aimez les gros mots. Ça peut arriver.
Oui, c'est vrai.
Ça peut arriver.
C'est vrai, je suis désolée.
Mais il y a tous les mots, qu'ils soient gros ou petits, en tout cas, vous en faites votre miel, si l'on peut dire. Vous avez fait l'ouverture aussi du festival Brassens à Vaison-la-Romaine en 2015.
Oui, ben l'univers Brassens m'a ouvert ses portes et ça a été un grand bonheur pour moi parce que je venais plutôt j'étais un peu cataloguée, on parlait tout à l'heure des tiroirs, un peu cataloguée musique du monde parce que ma musique est très solaire et pourtant moi je me sens liée étroitement, intimement avec le monde de la chanson française. Et c'est par Jean-Marc Dermès-Ropian, le programmateur du festival de Vaison-la-Romaine, que j'ai mis un pied dans le milieu de la chanson française, que j'ai fait le festival de Barjac, et que voilà, que je me suis reliée à Michel Bernard, à des gens comme ça.
Une belle aventure en tout cas. En tout cas, il y a un autre festival qui lui aussi, Subtile Transition, a ouvert ses portes la semaine dernière. Eh bien, c'est celui de Cannes. Et pour nous en rendre compte, sur place, notre critique maison, c'est Valérie de Marnac, qu'on va tout de suite rejoindre pour une petite sélection coup de cœur.
Bon, attention, moteur !
Annonce !
Grâce à moi, vous deviendrez la plus grande star du monde.
Coupé !
Les sorties de la semaine.
Et bonjour Valérie. Alors le Festival de Cannes en est à sa deuxième semaine. Près de deux tiers de films en sélection officielle ont déjà été présentés aux différents jurys. Et chaque année, eh bien, on attend le coup de cœur qui va enflammer le festival. Quel a été donc le vôtre, Valérie?
C'est le film de Justine Trier, Anatomie d'une chute. Alors, c'est un vrai grand film de cinéma. C'est un film qui a à la croisée des genres, à la fois une enquête policière, un film de procès, une quasi psychanalyse de couple. Hein, et il est porté par une actrice exceptionnelle, c'est Sandra Hüller, et qui voilà mérite largement le prix d'interprétation féminine. On verra ça. En tout cas, à l'écran, eh ben, toute la vie de ce couple est disséquée sous nos yeux pour tenter de comprendre comment le mari, Samuel, est mort. Son corps a été retrouvé au pied de leur chalet par leur fils Daniel au retour d'une promenade. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un meurtre, d'un suicide, d'un accident? Ben, c'est tout l'enjeu du film. Et répondre à cette question, ben, ça va passer bien sûr par une réponse judiciaire qui est nécessaire, mais ça nous emmène beaucoup plus loin dans la quête d'une vérité humaine tellement plus vaste et complexe. Et puis, c'est le jeune Daniel qui est malvoyant et au prénom de prophète qui nous ouvre le chemin. C'est un chemin qui passe par son intériorité propre, on pourrait presque appeler ça du discernement. En tout cas, le film est captivant et c'est bouleversant.
Captivant et bouleversant. Alors vous avez visionné, Valérie, plus de 20 films. Quels sont les autres coups de cœur personnels que vous avez pu avoir?
Il y en a d'autres. Alors, trois particulièrement, et par ordre un peu chronologique de projection. Alors, le premier, c'était Monster. C'est le nouveau film de Kore-eda, qui était déjà en compétition l'année dernière. Vous vous souvenez, avec Les Bonnes Étoiles, qui avait reçu le prix du jury œcuménique. Et ben, il revient encore avec un film, alors, un peu déstabilisant. On est un peu perdu pendant tout le début du film. Et puis ensuite, alors il est construit à la façon de Rashomon, en points de vue successifs de plusieurs personnes sur les mêmes faits. Alors d'abord vécu par une mère qui accuse un professeur de violence sur son fils. ensuite vu par ce même professeur qui lui suspecte un cas de harcèlement entre deux de ses élèves, et puis enfin le point de vue des deux jeunes garçons traversés par une attirance mutuelle. Alors comme toujours chez Kore-eda, on frôle la perfection dans la manière de filmer l'enfance et puis dans la construction scénaristique à tiroir, avec une scène finale absolument lumineuse et très très verte. Ensuite, Les Herbes Sèches, alors de Nuri Bilge Ceylan, c'est le chef de file du cinéma turc. Lui aussi, c'est un habitué du festival. Il a déjà été Palme d'Or en 2014 pour Winter Sleep. Donc l'histoire se passe comme toujours dans les sublimes paysages reculés de l'Anatolie. C'est dans un petit village enneigé et un triangle central de personnages pris dans les filets de la vie, de l'amour, des jalousies, des fantasmes aussi, des frustrations. Et avec chez lui toujours une large place laissée au dialogue pour explorer un peu toute l'ambivalence de ses sentiments humains. Il y a donc un professeur désenchanté qui rêve d'une mutation, son colocataire et collègue, et puis une jeune femme qu'ils vont rencontrer, qui elle est revenue vivre chez ses parents après un grave accident. Voilà, donc c'est un film puissant, profond, et la photographie est absolument somptueuse. Et puis pour terminer, alors après Les Herbes Sèches, il y a Les Feuilles Mortes, et ça c'est signé Harry Korismaki, c'est un autre habitué du festival, puisqu'il avait lui aussi été primé par le jury œcuménique pour son film en 2002, L'Homme sans passé. Alors évidemment, il faut être un peu sensible à son esthétique un peu froide et assez minimaliste, hein. Il est finlandais, et puis c'est un humour aussi assez noir, assez grinçant, ça peut un peu mettre à distance des émotions au début, mais alors en quelques plans, hein, ça se passe sur fond de guerre en Ukraine qu'on entend en permanence à la radio, et lui dépeint de façon très cruelle, hein, toute la précarité économique actuelle, la solitude moderne. Voilà, mais chez lui, il y a toujours cette manière de chercher toujours par où la lumière et l'espérance va pouvoir se frayer un passage, et il finit toujours par nous emporter par un dernier plan ici qui est vraiment d'une grande force émotionnelle et visuelle.
Eh bien voilà, quatre films donc à suivre qui seront peut-être au palmarès final ce samedi en direct du Palais des Festivals, et puis des sorties en salle également prévues à ce jour entre le 2 juin et le 20 septembre. Merci Valérie, bonne continuation cinématographique et rendez-vous bien sûr la semaine prochaine.
Doudou avec Vincent Belletti.
Christina Rosmini, je ne sais pas si vous avez eu des coups de cœur récents ou plus anciens en matière de films à nous révéler.
Oh, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas très longtemps, il y a un petit mois, là, mon frère a animé un cinéphilo à Marseille sur un des films qui a marqué ma vie, qui est Una giornata particolare, une journée particulière.
Avec Martino Mastroianni, ouais. Sofia Loren.
Sofia Loren, voilà, des Torre Scola, et qui est un moment de pure poésie et d'engagement. Et voilà, on voit la folie du monde comme ça au travers de
la montée du fascisme. Histoire,
La montée du fascisme, oui, puisque Mussolini, enfin, ils vont tous voir défiler Mussolini. Sauf ces deux voisins qui, de manière totalement, enfin pour des raisons très différentes, restent là. Et puis il va y avoir une histoire d'amitié amoureuse, et puis bon, surtout de prise de conscience terrible que va avoir Sofia Loren à travers de cette
rencontre.
C'est
un superbe film à redécouvrir, si vous ne l'avez pas vu. Ça fait partie de votre patrimoine cinématographique. Un autre coup de cœur peut-être plus récent.
Alors, deux coups de cœur. Alors, un vraiment aux antipodes, on va dire, au niveau du travail cinématographique, mais c'est le dernier Spielberg, en fait, The Fablemans, que j'ai trouvé extrêmement touchant.
Qui raconte l'enfance du cinéaste.
Exactement, et qui est vraiment un très très grand moment, je trouve, d'intelligence, de finesse, d'amour du cinéma. Et puis bon, voilà, il y a aussi, moi ça a fait écho aussi à ma propre histoire, à ma propre famille, à ma maman. Bon, voilà, ça m'a beaucoup beaucoup touchée. Et enfin, j'ai vu un film d'animation de Alain Huguetto, qui est un réalisateur franco-suisse, qui est un petit bijou, qui s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens.
On en a parlé sur cette antenne, effectivement.
C'est vrai,
tout à fait.
Voilà.
Ouais.
Mon papa qui a vu ce film le jour de l'avant-première s'est levé à la fin, et lui qui est pourtant très bavard habituellement, il a dit au réalisateur: je n'ai qu'un mot à vous dire, merci. C'était
Était considéré les Italiens lorsqu'ils sont arrivés en France.
Vous savez, à Marseille, on les jetait dans le vieux port, on les appelait les babis, ça veut dire les crapauds, et il y avait ce qu'on a appelé les ratonnades de manière immonde, mais le même procédé contre les Italiens. Il y a un film d'ailleurs aussi qui traite de ça, c'est Pain et chocolat, oui. Film aussi italien, où le Suisse veut tellement devenir, l'Italien veut tellement devenir Suisse qu'il se teint en blond, et malheureusement, il rentre dans un bar où il y a un match de foot et il est rattrapé par son amour de l'Italie.
En tout cas, très belle culture cinématographique, hein, Christina Rosmini. On vous engage, hein, pour la critique, si Valérie de Marnac se fait porter pâle. Merci en tout cas de ces coups de cœur. Alors, on vous reçoit, je le rappelle, à l'occasion de la sortie de votre troisième album, Studio Inti. C'est son titre, allusion au dieu du soleil dans la mythologie Inca. Et solaire, il laisse ce disque se céder par ses rythmes. On va justement en entendre un autre extrait teinté d'un certain humour, alors que le sujet ne s'y prête pas forcément, puisqu'il s'agit de rupture amoureuse. Ça s'intitule « Mais pourquoi ?». On l'écoute et on se retrouve tout de suite après pour ouvrir ensemble une petite boîte avec plein de questions mystères dedans.
Tu dégages, tu sors, tu ne joues plus.
Mais pourquoi?
Tu as tous les torts, tu l'auras voulu.
Mais pourquoi?
Cette affaire à ressort et révolue.
Mais pourquoi?
Rien à faire, c'est mort et vermoulu.
Ah?
Je ne veux plus de ta tête en peinture.
Oh mais ça.
Je ne veux plus goûter tes confitures.
Oh là là.
Je te renvoie à ma littérature.
J'y crois pas.
Et retourne exulter dans la nature.
Toi?
Mais pourquoi? Pourquoi, dis-moi? Tout avait si bien commencé. Comment ça? C'est assez. Qui donc aurait la panacée pour nous tirer de ce fossé? Mais pourquoi donc, dites-moi, tant de couleurs à avaler? Du déni, que nenni, je trouve l'addition un peu salée.
C'était pour la vie.
Et voilà.
On aurait dit que tu étais ravie.
Porte quoi?
Tu aurais pu demander mon avis.
Ça va pas.
Je croyais que tu en mourrais d'envie.
Moi?
Je te jure que c'est bien mieux comme ça.
Ah mais toi?
Ça c'est sûr et surtout n'insiste pas.
Lâche-moi.
Je t'assure qu'il y a bien mieux pour toi.
Pas pour moi.
De toute façon tu ne me supportais pas.
Quoi?
Mais pourquoi tout ça, dis-moi? Pourquoi tout est si compliqué? Abdiquer, m'appliquer. Comment ne pas polémiquer? Quelqu'un voudrait-il m'expliquer? Mais pourquoi donc, dites-moi, des tragédies de quatre sous? Ça vaut quoi? Pas un clou de se triper ou se tordre le cou.
Voilà, mais pourquoi, l'un des 14 titres de ce nouvel album Inti, composé et interprété par vous, Christina Rosmini, notre invitée du jour. Avec le cœur qui accompagne, moi quand j'ai entendu cette chanson la première fois, je me suis dit, il y a presque des accents de Carmen.
Ah, c'est amusant parce que j'ai joué Carmen pendant 2 ans.
Oui.
Bah, on est pétri hein, d'influence, et même si on s'en rend pas compte en réalité très souvent, ouais. Voilà. Mais là, puisque vous parlez de chœur, moi je dirais bon, je me suis amusée à faire 25 000 voix comme je fais tout sur mon ordinateur, sur Pro Tools. Il est arrivé un moment où je devais éditer. J'avais ça faisait des centaines de pistes, je devenais dingue. Mais par contre, ça me permet quand même de parler de mes fabuleux musiciens.
Oui, justement, un petit mot justement sur ceux qui vous n'ont pas cédé à la rupture hein, et vous accompagnent dans cette aventure. Qui sont-ils?
Oui, ce sont toujours les mêmes en fait, parce que je suis une grande fidèle. Alors déjà, il y a mon maritariste, hein, puisque c'est mon mari qui a la guitare. Et puis les autres musiciens, en fait, voilà, chaque fois qu'ils sont rentrés dans ma vie, ils n'en sont plus sortis. Et donc il y a Xavier Sanchez, qui est là depuis le tout début, qui est un percussionniste et batteur, qui travaille avec des grands comme Carla Bruni, etc. Il y a le pianiste, accordéoniste, bandoneoniste, qui là est vraiment à l'honneur dans ce titre, qui est Sébastien Debar, qu'on peut voir en ce moment dans Les Producteurs à Paris, qui est une merveille, il me fait pleurer en répétition. Il y a Bernard Menu, qui est à la basse, qui est également co-réalisateur, ingénieur du son. Bon, je suis entourée d'une équipe extraordinaire, avec un talent fou, et j'ai la chance, l'immense chance, qu'ils acceptent de se glisser dans mon rêve. Moi, je suis une autodidacte, mais je compose, j'arrange et je leur dis exactement ce que j'ai envie d'entendre. Ils me proposent des choses et si ça rentre dans le cadre de ma prémonition, c'est validé, sinon pas. Et c'est un luxe, un grand luxe.
Voilà donc pour les présentations dans ce nouvel album. Alors cela dit, Christina, eh bien, il est l'heure à présent de notre petite mise en boîte.
La boîte à tout doux.
Alors, dans les mains, je vous le montre, j'ai un petit coffret en bois et dans ce coffret, il y a des cartes et au dos de ces cartes, eh bien, il y a des questions. Alors, le principe, il est simple, hein. Je vais battre ce jeu de cartes, vous allez m'interrompre quand vous voulez et je vous lirai la question correspondante. Voilà, alors je commence à battre le jeu, vous me dites quand vous êtes prête pour la première.
Allez.
Allez, on y va. Une odeur que vous aimez particulièrement?
La fleur d'oranger.
La fleur d'oranger, bah oui, sous l'oranger, on entendait tout à l'heure. Et pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette odeur? C'est peut-être le souvenir qui s'y rattache?
C'est l'Espagne. Déjà, c'est mon Espagne maternelle, parce que c'est marrant. Là, j'ai fait un choix de film quasiment qu'italien. Ouais. Alors que quand même, moi, j'ai été marquée par Guillermo del Toro, Almodovar, Luis Buñuel, Carlos Saura. C'est quand même de là que je viens. Donc c'est toute la Méditerranée c'est toute la Méditerranée, c'est toute l'Andalousie de mes origines. C'est un parfum pour moi.
Et vous en mettez dans quoi? Dans les pâtisseries, dans les armoires?
Bien sûr, et puis dans les navettes de Marseille, parce que vous savez qu'à Marseille, nous avons les fameuses navettes du four des navettes, qui sont imprégnées comme ça de cette fragrance qui raconte l'histoire des Saintes Marie, Marie Jacobée, Marie Salomé, qui sont arrivées avec la Sainte Sarah, leur esclave qui était leur servante, qui est devenue la patronne des Gitans. D'ailleurs, c'était hier sa fête, la fête des Gitans aux Saintes Marie. Ouais. Et les petites navettes, donc, c'est en hommage à la barque des saintes, et elles sont parfumées de manière divine à la fleur d'oranger.
Voilà, nous mettez l'eau à la bouche, Christina. Allez, je continue de battre le jeu de cartes pour une autre question. Vous m'interrompez quand vous voulez.
Allez.
Allez, on y va. Une réussite dont vous êtes particulièrement fière dans votre vie?
Je dirais mes amitiés. Parce que je suis... je ne veux pas parler de mes réussites professionnelles parce que parce que encore une fois, je suis une grande fidèle et les gens que j'aime et qui m'aiment généralement, c'est à vie. Et oui, je crois que si je mourais demain, ce serait la chose dont je serais le plus heureuse. C'est ce que j'ai réussi à tisser, à tisser avec les humains qui m'entourent. Évidemment, je considère souvent le public comme une entité amicale. Ouais. C'est-à-dire maintenant, quand je monte sur scène, je dis souvent, je fête mon anniversaire avec 500, 1000, 92 personnes. Les gens qui sont là, c'est mes amis. J'envoie une énergie d'amitié, de fraternité, d'amour, n'ayons pas peur des mots. Ouais. Et je crois qu'on me le rend assez souvent.
Voilà. L'amitié, avoir réussi ici vos amitiés. Ça, c'est une très belle formule. Allez, on va continuer de jouer avec ce jeu de cartes hein, pour un dernier tirage. Vous me dites quand vous voulez. C'est bon ? Eh ben, on y va.
Oui, c'est bon.
Si vous pouviez changer de prénom, d'abord, est-ce que vous auriez envie de changer de prénom ? Est-ce que Christina, ça vous correspond ?
Ah, c'était étonnant parce que je suis née Christine Neu. Ah. J'ai été baptisée Christine Neu. Et je me suis... et pour moi, c'était un prénom qui ne rimait qu'avec les profs, les impôts, la police qui m'arrêtait au feu rouge. Enfin, pas au feu rouge, qui m'arrêtait quand j'avais fait des bêtises. Donc, c'était pas un prénom qui me correspondait du tout. Ouais. Donc, j'ai rajouté le A de mes origines, puisque tous les musiciens me disaient Christina, pues mira, Christina, Christina. Ouais. Et ce Christina colle beaucoup plus à ma peau. Et mon maître spirituel, donc Amma en Inde, change... enfin. Peut donner des prénoms et moi je n'ai pas souhaité. J'ai souhaité simplement rajouter le A de mes origines pour assumer vraiment mon chemin.
Voilà. Eh bien voilà. Eh bien écoutez, comme ça on sera tous sur ces origines de prénoms. Merci Christina Rosmini d'avoir répondu à ces questions de la boîte à questions qu'on va refermer et ouvrir lundi prochain pour notre prochaine invitée. On se retrouve dans quelques instants pour terminer déjà cette émission.
Tout doux avec Vincent Belletti.
Quand marchant sur un fil, on se souviendra d'aujourd'hui. On se dira comme il était joli. Ce temps où l'on sortait semer le grain de nos envies. Et mieux qu'un champ de blé, nos rêves prenaient vie. On refera l'histoire à l'encre des mélancolies. Jusqu'à broyer du noir.
Voilà, extrait du Temps qui passe, c'est l'un des autres titres de ce dernier album. Mais c'est vrai qu'avec vous, Christina, on n'a pas vu passer le temps. Est-ce que cet album va être l'objet d'une tournée ou est-ce qu'on va pouvoir vous voir prochainement sur scène ?
Alors, on va pouvoir me voir, mais en fait, une tournée, c'est pas encore le cas parce que vous savez, on sort d'une crise qui s'appelle la crise Covid, qui a impacté tout notre secteur. Et puis moi, j'ai eu l'idée saugrenue de faire un Covid long, c'est-à-dire que je me suis retrouvée en plus
comme
à passer
original.
Deux années avec le cœur, les poumons, tout ça. Donc là, je n'ai pas eu ce que j'ai habituellement, c'est-à-dire que ça ricoche, ça ricoche, ça ricoche. Et donc là, je me suis retrouvée à me dire. Cet album sort, c'est l'album de ma vie, c'est vraiment un album extrêmement important pour moi. Qu'est-ce que je fais ? Ben, je vais faire le Festival d'Avignon. Donc je suis au Festival d'Avignon dans le prestigieux théâtre Le Chêne Noir, c'est le plus prestigieux sur la place, à 21h45 tout le mois de juillet. Ouais. Et ensuite, à la rentrée, je serai 3 jours à Marseille au Théâtre de l'Œuvre et 5 jours à Paris au Théâtre des Déchargeurs. Donc les dates seront prochainement sur mon site. Et c'est à partir de là que j'espère que je vais à nouveau pouvoir me balader un peu partout de par le monde.
Ah, de par le monde. En attendant, Inti, il est sorti dans les bacs. Hein. Alors depuis quoi ? Le 31 mars ? Je ne sais plus exactement la date de sortie exacte.
Ah, c'est demain ? Non, non, c'est demain.
C'est demain, c'est demain qu'il
demain
sort.
Oh, ben, demain, voilà.
J'étais un
26
peu en avance sur mon temps.
C'est vrai. Oui. Il non. a été, oui. C'est demain qui sort à la FNAC, chez tous les livres, les disquaires et sur les plateformes. C'est demain.
J'espère que derrière le poste, derrière le transistor, ça vous aura donné envie à travers tous ces extraits d'aller le découvrir. Et pour en savoir plus sur votre parcours, votre actualité, je rappelle votre site, christinarosmini.com. Rosmini, on l'a bien noté, avec un S après le O. Un très grand merci d'avoir mis un petit peu de soleil sur nos ondes. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci aussi à Pierre Samanos qui, avec Antoine Picot, ont aussi fait rayonner les manettes de la régie technique. On va se quitter avec votre dernier choix musical. Ça s'appelle Intentalo Encontrar et je crois que c'est de Maite Martin, est-ce que je me trompe ? Vous pouvez me corriger ?
Oui. Maite Martin, une magnifique artiste de Barcelone.
Maite Martin, voilà. Et pourquoi ce choix-là exactement ? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette artiste ?
Je trouve qu'elle est, elle est extrêmement puissante. Elle travaille avec José Luis Montón, qui est un artiste de Madrid que j'aime profondément, un grand guitariste. Et voilà, parce que le flamenco et la chanson A Flamencada, c'est ce qui m'inspire le plus. Donc voilà.
Eh bien, on va se quitter avec elle. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de soirée à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame.
Sale el sol, buscan el arco iris un nuevo color. No te conformes nunca con ser un pensado. ¿Qué es el amor? Pregúntale al jilguero, al río y a la flor. Él no tiene sendero, pero es andador. No necesita puertas, es camino. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicación. Es refugio y morada de algún soñador que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario lo que llegues a amar. Después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar.